This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Ah, vous l'avez entendu ? Daniel Ariolo, Jérôme Bretagne.
J'ai même été surpris.
Florent Gautreau, ils sont là, bien sûr. Faudrait qu'on l'invite dans l'after pour qu'elle fasse les voix en direct.
Ah d'accord.
Bien sûr, les drones de l'âme arrivent hein, dans quelques instants.
Mais c'est une
vous
vraie
le savez.
Fan, parce que tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, il y a plein de réalités virtuelles, même pour les.
Non, voix. C'est pas une voix trafiquée. C'est une vraie voix.
De toute façon, c'est toujours quand même une vraie voix à la base, non ? Qui fait des lettres et qu'on associe.
Maintenant, ça peut se faire de façon synthétique.
Moi, par exemple,
tu sais que la nouvelle tendance maintenant, c'est même les mannequins femmes virtuelles.
Ah, on m'aurait menti, non ? Ma femme, en fait, est virtuelle.
Thiago Silva était dans Breaking Foot tout à l'heure avec Mohamed Bouafsi, vous avez entendu ça, il a dit plusieurs choses, je vous le résume, il a dit 1, je veux rester au PSG, je veux prolonger pour l'instant, il n'y a pas de négociation.
C'est bien payé.
2, tout va bien avec Tourelle. 3, je veux devenir entraîneur et une fois que ma carrière sera terminée.
Au PSG si possible parce que je suis installé ici et que la soupe est bonne.
Voilà, et 4, j'ai demandé à Neymar de rester, on écoute.
Ney c'est un joueur indispensable pour toutes les équipes, il était indispensable pour Barça quand il est sorti. L'indispensable pour nous, c'est un problème particulier de joueurs avec le club. Ça, on peut pas rentrer dedans, mais bien sûr que dans ma tête, j'espère qu'il reste.
Voilà, il a dit, je lui ai dit à Neymar, je veux que tu restes. Donc voilà, il y a aussi une pression de la part de ses coéquipiers. Le mercato, petit jingle mercato, messieurs, ça passe tout seul.
Écoute, je te dois 120 000 francs. La frutelle à 8 francs, la saucisse à 12. Avec un coca, ça fait 30 francs. Écoute, tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Et le café, c'est moi qui l'offre. Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez, moi, ce que je fais sur mon pognon.
Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Bruno Satin. Je sais pas pourquoi.
Il vendait pas de merguez,
Bruno, non. Puis je...
Il a bien dû en reforger une ou deux quand même, la merguez.
C'est quand même, Bruno, c'est quand même le seul agent plus qui vient au match de l'after. Au cas où, s'il y avait quand même une affaire à faire.
Donc, il aurait repéré un joueur.
Alors, j'étais à côté de lui et il m'a dit quand même, l'équipe Rotten est intéressante.
Mais elle a perdu.
Mais ils ont perdu.
Il connaissait tous les mecs dans l'équipe Rotten. Alors que dans l'équipe Fiolo, il connaissait moins.
Ah ouais, mais pourtant, c'est la question de talent.
Non,
ce jour-là, le talent était
l'œil,
là.
L'œil, normalement, d'un agent
technicien.
Ou d'un recruteur. Mais non, mais il regarde ce que l'entraîneur a mis en place. Toi, on ne comprenait rien.
Oh là là.
Mais non, mais c'était alors ça, en fait. Mais j'ai parlé avec lui.
C'est la vanne pour la vanne, parce que tactiquement, c'était tellement bien fait, tout ce qu'on a fait. La modif tactique au bout d'un quart d'heure pour densifier le milieu, on a tout.
Mais je pense que tes joueurs n'ont pas compris.
Ah, mais c'est pour ça qu'on a gagné d'ailleurs. Que vous avez terminé avec une équipe de pros contre que des amateurs et qu'on a quand même gagné. Et avec deux femmes dans l'équipe qui se sont bien battues d'ailleurs, Laure et Marinette, qui ont été exemplaires.
Mais Marinette, elle a joué avec moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ?
Bah, c'est un exemplaire aussi.
Mais ça va pas.
Non, qu'elle était exemplaire aussi.
Non, t'as dit, tu croyais qu'il en rigole. Non, mais ils sont.
Non, Laure était avec nous.
Oui, elle a joué 5 minutes.
Non, elle a joué un quart d'heure.
Tu sais ce qu'a fait la diff ?
Ah, le menteux.
Hein, Jérôme ?
Mais il est
elle a joué le dernier quart d'heure, même tiré le péno.
Mais sur la deuxième mi-temps, mais non, mais.
Bah, c'était la meilleure chez vous d'ailleurs.
Tu sais ce qu'a fait la diff ?
Elle était meilleure que du gars.
C'est pour ça. Où elle est maintenant, Mariette ? Elle entraîne au Canada.
Exactement. Voilà.
Quel rapport avec
parce dernier, que grâce à moi, je l'ai mis un petit peu en lumière là.
Elle a pris la place de Rémi Garde.
Ouais, qui avait laissé sa cabane là-bas.
Et Joël Batz.
Et en fait, c'est l'impact qui a fait la diff.
Oui, évidemment.
Ah ouais. Alors pourtant, vous aviez un joueur d'impact. Alors je l'ai pris sur le buffet et je peux te dire, ils avaient un vrai joueur d'impact.
Michael
Siani.
Ah bah oui, bah, il a que l'impact hein, d'ailleurs.
Tu le prends sur. Oh. Ah, il a marqué dans ce match. Hein,
bah c'est surtout l'impact qu'il a en priorité. Il a quoi d'autre sinon ?
C'est pas un mauvais joueur. Avec le ballon
principalement, c'est l'impact, sa qualité.
Mercato, s'il vous plaît.
Au contraire de tous les techniciens qui étaient chez moi.
Amiens a recruté un défenseur central italien. Il s'appelle Arturo Calabresi. Je sais pas s'il vient de Calabre à la base, mais enfin bon.
Ah, forcément, c'est pas.
Oui, c'est Arthur le Calabré, en fait.
Ouais.
Arthur le Calabré, c'est pas
ça.
Mal.
Ouais. Ça peut faire surnom presque.
Ça peut faire. Non, mais ça peut faire un peu surnom.
C'est pas les Calabrés. Y a pas un pluriel ou...
Non. Arthur le Calabré. Bon.
C'est toi, Calabresi.
Calabresi, ouais.
Ouais, si, ouais. C'est pluriel. Ouais.
Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, je fais un peu de grammaire.
Défenseur central qui vient de Bologne, recruté par Amiens. Donc, vous dire que Cabaye arrive donc à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui donc se renforce.
Spécialise un peu dans
tout
les,
comme
dans les
Isaac,
anciens.
C'est pourquoi
joueurs partis ailleurs qui reviennent. Je sais pas dans quelle forme il sera, mais après tout, Mvila est bien revenu de presque nulle part pour finalement être titulaire à Saint-Etienne. Alors pourquoi pas Cabaye?
C'est quel est le chanteur préféré de Johan Cabaye?
Non.
Corneille. Parce que Cabaye au Corneille.
Il a passé de comme.
Oh, voilà. Et franchement, en blague, t'as baissé. Hein.
C'est le silence après la vanne.
En blague, t'as baissé, mais franchement, je suis. Bon, bref.
Et Cabaye, combien de temps? Un an et demi est là-bas?
Pardon?
Il était, depuis combien de temps il était là-bas? Oh.
Cabaye?
Émirats?
Ouais, aux Émirats.
Bah, il s'est refait un peu, là.
Un an.
Ah, bah, il s'est refait. Il est...
Un an, pile.
Il a liquidé toutes les dettes. Il a refait une villa.
C'est qu'en général, quand un mec part aux Émirats, c'est fin de carrière.
Ça fait un an et demi.
Là, il revoit
qu'il avait fait une saison, une demi. Mais
Niagnon revient lui à Rennes, donc ça c'est.
Ah, ça manquait d'impact.
Tiens, bah là c'est l'impact.
C'est réglé, donc il est prêté à Rennes.
Hein, c'est pas les relances propres.
Bah, Niagnon, moi je trouve un peu moins.
J'ai dit ça hier soir, on m'a trouvé sévère.
Sur Niagnon?
Ouais.
Ah non, non, moi je.
Moi j'aime bien.
Moi je suis pas fan.
Alors toi, dis-nous, c'est quoi cette
nouveauté? Les joueurs d'impact.
Maintenant c'est le muscle, toi.
Ah ouais,
un peu de muscle. Il a trop été avec les canards. Les Casanova. Maintenant c'est le muscle avant tout.
Non, il faut de l'impact d'abord et après de la technique.
T'as mangé avec.
Bah, il faut de l'impact d'abord.
Il faut d'abord la technique pour jouer au foot.
Non, mais ouais. Oui, quand même.
On récupère.
T'as mangé avec Casanova.
Écoute-moi. Si dans un match tu récupères pas le ballon, t'en fais quoi de ta technique?
Mais la récupérer, pourquoi? Tu peux l'avoir aussi avant de le récupérer.
Avant comme ça, au coup d'envoi. Mais sinon, si tu l'as perdu la balle, faut la récupérer.
Hein, tu peux.
Allez,
tu peux récupérer autrement par l'impact. Hein.
Et puis, on parlait hier sur Rami à Fenerbahçe. Aujourd'hui, il y a plus en plus d'informations, enfin de rumeurs insistantes sur Ben Arfa, qui possiblement pourrait aussi atterrir à Fenerbahçe.
À Fenerbahçe, refont une équipe avec les vieux de la Ligue. Gustavo, Rami, Ben Arfa.
Peut-être.
Bon. C'est peut-être là qu'il y a un package à refiler. Hein. Le package Kurzawa, Choupo-Moting. Après, je ne sais plus qu'il y en avait mis dedans.
Et puis, Kurzawa, avant de passer au rôle de l'âme.
Il n'ira pas.
Pourquoi?
Parce qu'il n'ira pas. Parce qu'il
se sent encore trop bon pour ça.
Jeune, je peux un championnat majeur, l'Angleterre.
Stoke City.
Je peux peut-être
avant de passer au rôle de l'âme, les gars, s'il vous plaît.
Newcastle, qu'est-ce que ce serait?
Un tour à la Ligue 2.
C'est pas mal.
Pour lui, ce serait.
Xavier Grimaud, Valenciennes. Guingamp, Valenciennes.
En jeu depuis 69 minutes, 1-0 toujours pour Valenciennes. Le pénalty de Chergui à la 37e minute. Et c'est extrêmement poussif. Hein. Guingamp, il n'y a vraiment pas beaucoup de phases bien construites. On a vu une frappe à l'instant de Lebogang Piri, le sud-africain, à 35 mètres, qui a été claqué en corner par Jérôme Prieur, mais pour l'instant il y a quelques petits sifflets qui commencent à s'élever du roudou. 1-0 pour Valenciennes, la 70e.
Et puis Florent Gautreau a fait un gros flop sur une blague sur Corneille. Corneille lui répond:
je suis seul au monde.
Ah oui,
il n'y a rien à faire, je suis seul au monde.
C'est ça la réponse.
Je pensais pas qu'on écouterait ça un jour dans la fleur, là. C'est un petit choc.
Daniel préfère Eros Ramazzotti. Donc, la prochaine fois, si vous pouvez faire un effort.
Mettez Eros.
Ah non, pitié, non.
Bah quoi, Eros?
Non plus. Ah bah, c'est pour.
Au concert à Rome.
Non, jamais. C'est ni l'un ni l'autre. Ni celui qu'on a entendu avant, ni lui. Merci.
Jingle drôle de l'âme, c'est parti. Là, il est mieux. Messieurs, dames. Elles ne sont que trois ce soir, exceptionnellement. Pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce que ce soir, il y a un match de l'Inter.
Donc c'est passé vite, là, la Ligue 1, c'est fini.
Et on en reparlera avec Julien Cazard tout à l'heure, t'inquiète pas, il y a encore plein de choses de
plus. Jérôme n'a rien dit sur Monaco, c'est troublant.
Demain, on a aussi le choix du truc.
Le problème, Daniel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits. Mm-hmm. Alors, le boss a décidé de parler que d'une heure de Ligue 1 et
quand
tu reparles de la Ligue 1 à 23h, moi il me dégage.
Donc je le disais.
Donc je voulais le dire aux auditeurs, c'est pas moi qui ai pris cette décision là.
Voilà. Tu te décevrais de ton coach.
Ah bah de toi, bah quand tu fais des erreurs, tu fais des erreurs.
Qu'est-ce on va gérer ça avec le président.
Respecte les consignes.
Écoute,
fais ce qu'on te dit.
L'Inter joue ce soir face à Lecce 3-0. Simone Renvera est sur place, donc Simone sera avec nous demain pour nous parler de l'Italie. Les autres sont là, messieurs, dames, à commencer par Fred Hermel, bien sûr. Fredo, bonsoir.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Salut Fred.
Ça va? Alors, Florent, moi j'ai compris ta blague. La pacte, garde, cabane. On est d'accord, moi oui. Je l'ai comprise.
Bon bah c'est bien.
Polo Breitner est là également. Salut Polo.
Ah oui, je crois, ouais.
C'est vrai.
Bonsoir, salut, mon Polo. Cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Salut Polo.
Et Julien Laurent, c'est parmi nous. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Salut.
Trois grands titres dans les pays respectifs de nos drôles de l'âme du soir. En Espagne, Griezmann prouve que le Barça n'a pas besoin de Neymar. Fred va nous dire pourquoi. En Allemagne, l'Avar fout le bordel. Et en Angleterre, Liverpool impressionne. On va parler de tout ça et du reste de l'actu, hein. Bien sûr, des trois pays dans quelques secondes dans les drôles de l'âme avec vous. Le 32-16, je le rappelle, est ouvert à tout instant. N'hésitez pas si vous avez une question spécifique à Polo sur le Hansa Rostock. N'hésitez pas, il est là pour ça. À Fred sur les Ganes et à Julien sur Sheffield United, ils sont là pour ça aussi. Démarrons quand même par Griezmann, parce que Fred, tu le dis, aujourd'hui l'Espagne dit que il y a pas que toi, hein, que Griezmann a prouvé que
en
le Barça
que la
n'a
comédie
pas besoin de
Neymar. La comédie a assez duré, presque.
Bah oui, c'est-à-dire que franchement, alors je sais bien que c'est en même temps que le match du PSG Toulouse hier soir, mais je sais pas si vous avez pu jeter un œil sur le Barça Betis, qui était un match de toute beauté. Un petit mot quand même sur le but de Fekir, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois. C'est déjà le patron du Bétis, hein. Et démarrer sa carrière par un but au Camp Nou, même s'il y a une défaite 5-2 après,
ouais,
c'est
quand même une lettre. Ouais,
je pense que la Liga lui va aller très, ouais, très bien.
Exactement.
La vie à Séville, il va lui aller très, très bien et qu'il va s'épanouir très, voilà, tranquillement là-bas.
Et comme j'ai dit la semaine dernière, c'est un très bon joueur et il l'a montré hier.
Exactement. Non, mais arrête, non, toi, mais il l'a montré hier, mais arrête. Non,
il a montré déjà depuis longtemps.
Mais c'est une capacité d'adaptation.
Hier, pas que Fekir a fait un grand match hier, il a marqué un but, d'accord. Mais,
ouais, mais il y a eu deux, trois mouvements de Fekir.
Non, mais d'accord.
Les commentaires en Espagne, c'était, ah dis donc, on a pris un bon joueur.
Mais d'accord, sur la première mi-temps, ok, mais Barcelone, sur la première mi-temps, excuse-moi, il y a eu quelques déchets quand même. Quand ça accélère sur la deuxième mi-temps, comme il a toujours fait, il a totalement disparu. Alors je te dis pas que c'est facile, mais me dites pas qu'il a fait un grand match hier.
On le sait, mais ses limites, elles sont ce qu'elles sont.
Mais là, c'est pas les limites.
Que c'est un beau joueur de foot et que c'est.
Non, mais attends,
le Bétis, c'est la Liga, lui iront très bien.
Hier, c'est pas ses limites individuelles. C'est qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, le Barça a repris la main et Fekir ou pas Fekir, c'était mort. Mais au moment où il a eu la main, Fekir, c'était beau.
S'il avait pu aller dans un club plus grand et s'imposer dans un club plus grand, on l'aurait su depuis longtemps et les clubs se seraient manifestés. Il va au Bétis parce que c'est un club qui, je pense, est à sa mesure. Que lui va s'y épanouir et qu'au final, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. Ouais. Et s'il faut lui souhaiter du bien à Fekir,
on voulait pas parler de Fekir, là,
la
on
Liga et le Bétis, c'est très bien pour lui, voilà.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Alors Griezmann, hier soir, c'est quand même deux buts, de très jolis buts. Et une passe décisive, quoi. Donc, franchement, Grisou, j'ai eu l'occasion de parler avec lui aujourd'hui et. Il est heureux à Barcelone. C'est pas quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre, que c'était compliqué, bien entendu, d'arriver dans un autre pays, mais dans une autre philosophie de jeu. Le mec, il vient de passer 5 ans avec Simeone. Vous imaginez arriver au Barça? Enfin, c'est quasiment changer de pays.
Il est passé de l'impact à la technique.
Et voilà, tu vois.
Et Fred, tu sais qu'ici, il y a énormément. On est quand même un pays en matière de football de chouineurs. De ces supporters qui défendent les vedettes, qui ne prouvent pas ou pas assez, où il faut, c'est le pays de l'indulgence. Griezmann, tout Griezmann qu'il est, avec les saisons extraordinaires à l'Atlético, après une seule journée, il a essuyé une conf au Valverde.
Ouais, là, un
on a parlé comme si c'était le dernier des tocards qui venait d'arriver.
Il se prenne en main, il faut qu'il fasse
plus. Mais en Espagne, voilà, personne n'a chouiné. Qu'est-ce que fait Griezmann dans la foulée? Il te fait un match de malade, deux super buts, passe des, personne chouine. Et
mais
ça,
Daniel,
se bouge le cul.
Ici, c'est toujours. Ici,
Oh, Neymar, il fait ce qu'il veut. Neymar, il est trop fort. Neymar, il est ceci. Neymar, on lui sur le cul. Et voilà. Non! Griezmann, Valverde, première conf, premier match. Moi, alors franchement, je l'ai lu, je dis putain, les gars, c'est fort. C'est sévère, il abuse un peu, Valverde. Mais personne n'a chouiné, personne n'a trouvé ça anormal. Mais ici, l'exigence, c'est non. Ici, c'est l'indulgence.
Non, non. Ah bah non, au Barça, et Griezmann s'était fait vachement critique après le
match.
Et moi, je trouvais ça un peu dur contre Antoine, parce que c'était le Barça à Bilbao avait été très mauvais. Il était perdu à gauche, il savait pas trop où il était. On a vu, par exemple, des pertes de balles à cause d'une incompréhension, mais technique entre Jordi Alba et Griezmann après la blessure de Suarez. Il joue dans l'axe, etc. Bref, hier, il était le patron. Il était tout seul parce qu'il a joué quand même avec Rafinha et Carles Pérez, qui était un jeune de l'équipe B. Bon, c'était vraiment le patron, puisque Messi blessé, Dembélé blessé, Suarez blessé, et Griezmann a pris les choses en main. Et j'oserais même dire que dans un rôle de faux numéro 9, si d'un moment Suarez a plus vraiment les moyens de jouer dans cette équipe, mais il est magnifique, parce que Griezmann, il a cette intelligence de jeu et cette capacité à venir derrière chercher des ballons. Tu vois les deux buts qu'il a marqués hier. Le premier, c'est un but de vrai numéro 9. Le deuxième, c'est un but de mec libre.
De classe, quoi.
De classe pure, tu vois. Et il est capable de tout faire.
De classe, Fred, et tu l'as dit là en disant il vient chercher les ballons. Évidemment, tout ce qu'il a fait est réappris avec Simeone. Il y a aussi ça que moi je veux qu'on souligne chez Griezmann. C'est un grand joueur qui ne sera jamais le Platini de l'équipe de France, comme on a pu à un moment donné le penser, ou un ballon d'or individuel, au sens où c'est un gars qui peut s'incarner très bien dans un collectif. Et c'est pour ça que ça peut très bien se passer avec Messi et avec quiconque, parce que Griezmann.
Parce qu'il est politique aussi, parce que déjà, je te coupe. Ouais. Mais t'as entendu ce qu'il a dit après sur le but fantastique, cette frappe du gauche.
Il a dit j'ai vu Messi faire ça.
Et à l'entraînement,
il est malin. Il est malin, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'il fait, mais que ce soit avec les Bleus, si vous regardez bien, ce qu'il court, ce qu'il fait, ce qu'il a évidemment aussi appris en club, mais ce qu'il a envie de faire, Griezmann, à part un petit moment où il est parti sur l'ego, sur son ballon d'or, il a demandé à l'équipe de le soutenir, il voulait les unes de l'équipe, il voulait tout ça, tu vois, en 2016, il a eu ce petit moment là où il s'est un peu à mon avis un petit peu perdu dans sa com, alors que vraiment Griezmann, il est toujours le gars de Mâcon, c'est un gars simplissime. Moi je parle vous savez que je viens du monde des courses et qu'il a acheté des chevaux là très récemment et qu'il vient dès qu'il peut pour les voir, c'est un gars d'une simplicité, et donc ce truc là je trouve que je le retrouve. C'est-à-dire que c'est une des stars, mais ce sera pas la star absolue, le sauveur.
De frites avec lui à Vincennes.
Non, mais c'est un gars incroyable hein, pour ça. C'est un gars qui, avec son père est turfiste et il rêve d'avoir ça.
De frites autour des chevaux.
Au hippodrome, non. Non, pas vraiment. Non, tu vois, au resto de l'hippodrome.
Si, au Croisé de la Roche.
Ah oui, t'as raison. Dans les hippodromes, les petits hippodromes de province, ça peut se faire. Mais dans le nouveau Longchamp, pas vraiment. Dans le nouveau Longchamp, pas vraiment.
Mais tu vois, ça fait plaisir ce que tu dis, parce que les gens ont parfois une fausse image. Parce qu'il s'est trompé parfois dans sa communication. Tu vois, parce qu'il a pas
Ça, il faut quand même le dire aussi.
Voilà, il y a eu des erreurs, etc.
Et quoi qu'on en dise, ça peut être un mec. Il a quand même un côté star.
Oui, il a un ego.
Géré. Voilà.
Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais par exemple,
on peut pas dire que. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut malheureusement plus l'être tellement. Il n'est pas non plus on peut pas dire que c'est le mec simple non plus.
Pas forcément.
Et on s'en fout. Franchement,
bien sûr. Non, mais t'as raison.
C'est important pour rentrer dans le vestiaire du Barça. Non,
mais Fred, on s'en tape qu'il ait le chou, le recul, qu'il soit sympa, pas sympa.
Qu'il ait le chou et qu'il fasse des efforts pour les autres sur le terrain.
Non, mais quand tu le vois jouer depuis des années, moi je suis pas surpris de ça. Et encore, il faut pas le juger que sur ce match-là, parce qu'il y en aura d'autres.
Mais c'est tous toute cette carrière avant.
Mais à Barcelone, bien sûr. Que moi je disais à Fred, il passe de l'impact à la technique. Bah, c'est vrai que là il va être surpris de toucher un peu plus de fois le ballon.
À l'Atlético, il y avait quand même un paquet de joueurs techniques aussi, quand même.
Ah bon?
Mais qui était corseté.
Un paquet de joueurs techniques. Alors vas-y, dis-moi.
Il a raison, Daniel.
Dans quelle équipe?
Non, mais Saúl Ñíguez, c'est un joueur technique.
Ah bah oui hein.
Coquet, c'est un joueur technique.
Oui,
c'est
pas technique. Sauf qu'ils étaient dans un rôle beaucoup.
Niguez, Coquet, Gabri, les deux latéraux,
Et Gris.
Non, Jérôme. Que la tactique.
Mais sur les deux dernières années, à l'Atlético, c'est ça.
Ça n'était pas technique. Mais ça, tu peux pas dire ça.
Mais tu rigoles. Et je peux te dire, en allant. Je vais pas donner des noms de joueurs.
Non. On passe à la suite.
T'imagines quoi, et ce mec-là.
Liverpool. Deuxième gros titre ce soir. Mais là, c'est fini. Parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà 22h20. Liverpool fait fort en Angleterre ce week-end, Julien.
Oui, effectivement, victoire 3-1 contre Arsenal à domicile. Alors, encore une fois, si tout n'avait pas été parfait et si beaucoup de gens en Angleterre ont cru à un moment qu'Arsenal pourrait peut-être un petit peu les bousculer dans cette rencontre, parce que lors de leurs deux premières journées, ils avaient montré quelques faiblesses, notamment défensivement. Je pense qu'ils ont remis tout le monde d'accord, ils ont remis tous les réglages à l'heure. C'était un très très bon Liverpool, un très très bon Mo Salah aussi, notamment son deuxième but qui est assez exceptionnel.
Extraordinaire.
Et une large victoire,
vraiment.
Une large victoire de Liverpool. C'est leur 12e victoire de suite en championnat, c'est-à-dire ils égalent le meilleur record de leur histoire qui avait été fait sous Dalglish en 1990. C'est pour vous dire quand ça remonte. Donc 12 victoires d'affilée et à domicile, c'est encore pire. Ça fait 42 matchs sans défaite à Anfield en championnat. Hein. 32 victoires, 10 matchs nuls. C'est le deuxième meilleur total de l'histoire du football anglais, donc en 126 ans. C'est Chelsea qui a fait mieux avec 86, qui avait commencé sous Mourinho en 2004 et fini en 2008. Mais en ce moment, c'est du très très bon Liverpool, surtout à domicile.
Bah, on a revu,
on a vraiment vu les progrès, comme Klopp l'avait... Exactement. Mais ce que Klopp avait prévenu, Daniel, hein, Klopp avait dit, vous en faites pas pour nous, c'est le début de saison, mais on va monter en puissance. Et ils sont déjà en puissance, ils sont en tête de la première ligue, bien sûr. Ouais, avec
c'est simple, en fait, il n'y a pas eu de match.
C'est vrai que là, ils ont impressionné.
Il n'y a pas eu de match, ils les ont broyés petit à petit. Alors, ils ont mis un peu de temps à trouver l'ouverture. Et puis, quand c'est venu, il y a eu la fameuse balle de contre de Pépé. On peut effectivement faire une petite parenthèse là-dessus parce que confiance lui a été accordée et c'est vrai qu'à un moment il faut bien le lancer et que sur cette action plutôt rondement menée, sur la finition il a complètement raté le pauvre. Je suis pas sûr que ça aurait complètement changé les données du match, mais oui, c'est la seule parenthèse pour Arsenal, juste cette action, ce cost to cost et puis c'est tout. Le reste ils se sont fait mais broyer de
mais
tous les côtés.
Surpris, c'était... En fait, que...
Non, on n'est pas surpris. Arsenal n'est pas assez fort pour rivaliser avec Liverpool. Depuis, voilà, mais de voir à chaque fois cette machine qui continue d'avancer et je le répète, en fait c'est une machine et avec trois éléments complètement pratiquement distincts des autres. Parce que ils sont tellement forts les trois et Firmino, je trouve que c'est un de ceux dont on parle le moins dans les trois. Il est lui tellement extraordinaire dans ce rôle de faux neuf quasi 10 à distribuer avec les deux merveilleux attaquants qui sont sur les côtés. Moi cette équipe de Liverpool, elle me séduit mais vraiment beaucoup.
Moi ce qui me je vais même pas parler d'Arsenal parce qu'encore une fois on est déçus et puis tous les supporters d'Arsenal ils vont me dire que je suis un anti-Gunners mais bon peu importe.
Anti-Gunners de quoi? T'as le droit de te poser des questions sur les choix.
Emery de toute façon
toutes les équipes.
On va y revenir d'ailleurs.
Torreira qui joue pas, je comprends pas.
Toutes les équipes d'Emery à l'extérieur et ça dure. Hein, et c'est une stat qu'on parlait déjà au PSG. Alors imagine à Arsenal, toutes les équipes d'Emery à l'extérieur, elles prennent l'eau contre les grosses. Hein, je te parle. Donc c'était encore le cas. C'est sûr que là-bas, même un très bon Arsenal aurait eu du mal à résister à ce Liverpool-là parce que ils ont une façon de jouer à domicile avec toute la confiance, comme disait Julien, quand tu passes 42 matchs sans défaite chez toi, c'est sûr que là tu peux même prendre un ou deux buts, tu sais que tu vas revenir dans le match dans tous les cas. Après ils ont des dynamiteurs devant, mais surtout le milieu de terrain, encore une fois il a fait le choix de laisser Milner au repos, du moins en remplaçant. Il joue avec Wijnaldum, Henderson et Fabinho, les trois là c'est incroyable. Après la qualité technique des latéraux, des joueurs devant, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux dire, c'est compliqué. Moi, de toute façon, on peut que parler de Liverpool et encore dire, Arsenal, il va falloir attendre encore une année.
Si Arsenal, tu peux te poser des questions. Après, ils sont en retard par rapport au gros. Désormais, Arsenal.
Non, mais comment tu joues avec Chaka ?
Tous les ans, Chaka, c'est ton homme de base
au milieu de terrain. Putain, mais faut arrêter les conneries.
On continue le débat dans quelques instants.
Non, mais le truc, ils auront la quatrième place.
Le truc, c'est. Alors, sur Arsenal. Klopp, par exemple, a été très intéressant après le match en disant que lui-même avait été surpris par les choix d'Emery dans sa composition d'équipe, donc des 11 titulaires. Sous-entendu, pourquoi pas Lacazette, pourquoi pas Torreira et pourquoi ce milieu en losange avec un Dani Ceballos qui a joué bien trop haut, ou en tout cas sa position était bien trop haute pour avoir une influence sur le jeu, comme on l'avait vu notamment contre Burnley le week-end dernier. Et lui, Emery, a fait encore plus fort que Klopp, c'est-à-dire que lui a expliqué que finalement, c'est mieux que l'année dernière, parce que cette fois, ils ont perdu que 3-1, comparé à 5-1 l'année dernière. Ah ouais. Et si tu commences déjà à te dire que ton entraîneur, il est content, qu'il voit presque ça comme une victoire, que tu en prennes que 3 à Liverpool et pas 5 la saison précédente, c'est qu'il y a quand même un truc qui va bien.
Non, mais
sinon, j'ai aussi, juste pour finir sur ça.
Et après, on fera la pause.
Juste pour finir. Voilà, j'ai la stat qui sert à rien quand même, parce que j'en ai une ce soir. Virgil van Dijk a été dribblé pour la première fois en 50 matchs. Depuis qu'il est à Liverpool, il a été dribblé par Nicolas Pepe.
Non, donc, c'était, voilà. Mais je crois que c'était arrivé il y a pas très longtemps aussi. Il me semble que dernièrement, il avait été.
Ah non, il avait pas.
Non. C'est la première fois.
Ça n'avait pas été compté comme un vrai dribble. Là, il a vraiment été dribblé, genre. Mbappé lui a fait, voilà. Mais bon, à part ça, c'est tout ce qu'on peut souligner pour Arsenal.
Dans quelques instants, l'Allemagne au programme et le reste de l'actu espagnole, anglaise, évidemment, dans l'after. On revient tout de suite après un petit tour rapide par Guingamp, Guingamp Valenciennes, Xavier.
Allez, on rentre dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Toujours 1-0 pour Valenciennes. Guingamp qui n'y arrive pas. C'est Cherki qui a marqué sur pénalty pour les Nordistes à la 37e.
À tout de suite dans l'after.
RMC.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
On est là avec Jérôme Roten, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec les drôles de dames, à l'exception de Simone Rovera, qui sera là demain soir, puisqu'il est soir à l'Inter, qui est en train d'exploser tranquillement Lecce. 4-0, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, entre les deux équipes en deuxième
Lecce
mi-temps.
Est une ville absolument magnifique.
Oui, bah pas forcément 3-0 pour, pardon, foot, hein. Pour l'Inter.
Est-ce que Lecce a la place
c'est
petit
peu en joué...
menton quand même?
Ah, pitié. Pitié.
T'as vu que ce débat a beaucoup fait réagir.
Ah, tu sais que les représentants de la ville de Menton, ils étaient.
Oui, non, mais ok, c'est tes amis, mais je m'en fous.
Mais c'est pas mes amis.
Mais surtout, alors encore moins avec Lecce, quoi. Si un jour t'as la chance d'aller visiter cette ville, Lecce, c'est.
Donc, t'arrives à te lécher le menton d'ailleurs.
Pourquoi le menton?
Attention, oublions Lecce pour reparler foot allemand. Polo, on va parler du Bayern et de Dortmund dans quelques instants, mais raconte-nous ce qui s'est passé en Allemagne ce week-end avec la VAR, parce que j'ai l'impression que. Les débats sont plus que permanents et même plus forts qu'en France en ce moment en Allemagne.
Ah, mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup, beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France. N'oublions pas, je donne juste un seul exemple, hein, que l'année dernière, le responsable des arbitres et de la VAR a été viré de son poste parce qu'il était supporter de Schalke et il avait tendance à favoriser le club de Gelsenkirchen par rapport aux autres.
Pas mal.
Mais c'est systématique tous les week-ends et au-delà de la technique et des débats qu'on peut avoir ou les désaccords qu'on peut avoir sur cette sur la vidéo, le problème c'est qu'il n'y a aucune homogénéité entre les décisions arbitrales, match après match, week-end après week-end. Et ça devient insupportable. C'est-à-dire que, y compris les journalistes sportifs qui commentent les matchs allemands, c'est-à-dire les journalistes de Sky, par exemple, ils en ont ras-le-bol. Parce que le vendredi, ils voient une action qui ressemble à celle du samedi, et à chaque fois, c'est pas la même décision qui est prise par l'arbitre. Et c'est très intéressant.
Quand c'était des arbitres humains, Polo.
Oui.
Et justement, ça ne gênait pas parce qu'on disait chacun sa sensibilité, l'interprétation. Mais à partir du moment où on introduit la machine qui doit dire la vérité, on veut que ce soit la même pour tous.
Voilà, le mythe d'Icare.
Voilà.
C'est, bon, alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, Markus Merck, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien arbitre international allemand, qui était à la Coupe du Monde 2006, et je crois qu'il a été élu quelques fois meilleur arbitre mondial, si je raconte pas n'importe quoi, a fait une interview assez intéressante, et lui, il parle carrément de, tu vois, Sodome et Gomorre, quand on lui parle de la VAR, c'est-à-dire que tout le monde fait n'importe quoi en fonction de ce qu'on a envie. Et moi, ce qui me perturbe, donc je trouvais que le fait qu'un arbitre aille enfin contre la VAR était assez intéressant, parce qu'ils sont quand même assez corporatistes, et je trouve ça assez intéressant qu'il dit ça comme ça, mais moi ce qui me fait peur, Gilbert, tu sais qu'il n'y a pas que trois tondus et deux pelés dans les stades allemands, et ouais. Je vois monter dans les tribunes une forme de violence par rapport aux décisions arbitrales, et je n'aime pas ça du tout. Ça s'est vu à Schalke samedi, donc pour le Top Spiel, le match à 18h, où tu as le public qui était chauffé à blanc parce que l'arbitre a fait n'importe quoi. Il y avait trois ballons qui ont touché la main très rapidement, l'arbitre n'est même pas allé voir, donc ça faisait chauffer ça fait chauffer le public d'une façon assez impressionnante. Il y a eu la même chose lors du match le lendemain entre le Hertha et Wolfsburg, où l'arbitre dès la première minute annule un penalty qui au moins à l'œil nu était évident, et 30 secondes après il se passe la même chose pour Wolfsburg dans l'autre carré de terrain, et le problème c'est qu'il va même pas vérifier à la VAR. Le public, il y avait 43 000 personnes au stade, ils en peuvent plus. C'est assez intéressant. Si tu rajoutes à ça les cartons qu'on met aujourd'hui aux entraîneurs, qui je trouve d'ailleurs avait une façon de compenser un peu les manques, je veux dire, on ne peut pas s'exprimer, mais au moins, tu vois, le coach, il peut un peu représenter toute la frustration qu'il peut y avoir.
Hein, vous avez vu, Loret, par exemple, a pris un carton jaune hier lors de Strasbourg, donc c'est une nouveauté également en France.
Ça devient un peu n'importe quoi. Et moi, je dis la VAR, au-delà de la technique, des débats qu'on peut avoir pour ou pas ou contre, etc., c'est que je ne vois aucune homogénéité chez les arbitres, et c'est week-end après week-end, semaine après semaine, match après match, et il n'y a pas, encore une fois, si c'était juste, j'ai envie de dire, une catégorie qui disait on n'aime pas la VAR. Non, c'est pas ça. Les journalistes en auront le bol, les joueurs en auront le bol. Certains entraîneurs commencent à dire c'est pas mon football, c'est fini. Le public, j'en parle même pas. Non, mais je rappelle, il y a en moyenne entre 45 000 et 50 000 spectateurs par match en Bundesliga. Si ça chauffe dans des matchs comme Francfort, par exemple, où il y a des publics qui sont connus pour être très chauds, je sais pas ce que ça peut faire un jour. Donc va falloir un moment se poser les bonnes questions parce que ça me semble extrêmement tendu. Je vous ai envoyé une petite photo un peu humoristique.
Oui, on va la voir sur RMC Sport News.
D'accord. Et je vous l'ai envoyé un peu pour voir ce que c'est. Mais ça, c'est bien, c'est de l'humour. Mais je crois que le problème est beaucoup plus grave.
C'est-à-dire qu'on voit le centre du VAR en Allemagne, en fait, décoré avec des écharpes et des écussons du Bayern sous-entendu.
Voilà, c'est ça. Donc, on est à Cologne, en fait. Donc, il y a un peu le centre technique pour la VAR, là où se prennent toutes les décisions, etc. Et en fait, on se rend compte que le Bayern est très avantageux, notamment sur Masque de Schalke.
La ville de Lukas Podolski.
Voilà. Et donc c'est un peu et ancien bavarois au passage. Et le donc c'était assez intéressant de montrer ça, mais on en rigole. Mais le problème c'est que ça devient grave. Moi j'ai un peu peur. Je te dis honnêtement, je dis pas ça pour voilà faire du buzz ou n'importe quoi. Mais quand j'ai vu le public de Schalke qui en avait ras-le-bol de l'entraîneur de l'arbitre pardon, qui faisait n'importe quoi dans le décisionnel, 62 000 personnes au stade, faut faire attention quand même.
Voilà pour la situation de la VAR en Allemagne actuellement. Reprenons maintenant le cours de l'actu dans vos pays respectifs. Fred, tu voulais parler de Zidane qui, paraît-il, est énervé.
Bah oui, bien sûr, j'étais au stade samedi en fin d'après-midi, début de soirée pour ce match nul qui avait des relents de l'année dernière.
Tu sais, le... sur la sellette, tu penses?
Tu penses que c'est chaud ou pas, non?
Et je vois que les blagues n'ont pas changé. Hein.
Non, je sais pas.
Non, on a Fred, reste zen, comme tu sais.
Mais je reste zen ouais. Mais tu sais, moi, maintenant, je suis dans l'émission de Jérôme aussi, donc tu vois, on s'entend hyper bien. Guest star dans son émission, tu vois, donc c'est comme régal. Ça qu'il m'achète, quoi. Non, mais c'est. Il était vraiment énervé parce que. Depuis que je le connais, à sa tronche, après les matchs, je vois s'il est vraiment déçu ou si ça passe. Là, il était vraiment très très déçu. But encore une fois de Karim Benzema.
Plus, comme ça.
Très beau, 82e minute, 88e. Vraiment,
Benzema il marque quand même depuis le début de la saison.
Bah, pour l'instant, il y en a deux buts et une passe décisive en deux matchs.
Ouais.
Et bon, le Real, la première période était plutôt sympathique, c'était agréable à voir, mais la deuxième période, ils ont arrêté de jouer, comme dit Zizou. Il faut qu'on arrête. Il faut jouer 90 minutes et pas 50 ou 60. Et le Real Madrid, après la 82e minute, c'était déjà pas terrible. Aujourd'hui, le plus dur est fait. Et puis, il y a eu un flottement dans la défense avec un Varane qui a été un peu hésitant sur l'attaque de Valladolid. Et finalement, le Real a acheté deux points à la benne à ordure, quoi. Ça, c'est vraiment ridicule parce que tu fais un bon match, tu gagnes à Vigo, vraiment en jouant bien, en montrant beaucoup de solidarité entre les joueurs. Et là, c'est les fantômes de la saison dernière qui réapparaissent.
Juste parenthèse, tu parles de Benzema parce qu'hier soir, en rentrant après l'after et après l'énième discussion autour de la formation des joueurs français et de ce qu'on fait comme joueurs en France. Eh bien, je cherchais, en fait, sur les 10, 15, 20 dernières années, les joueurs de classe internationale formés dans notre pays. Et bien, en fait, le seul, c'est Benzema, que j'estime totalement formé français.
Oui, parce que on parlait de Griezmann tout à l'heure, il n'est pas formé en France.
Il est formé parce qu'il s'en va très très tôt et il apprend.
Il avait joué en équipe première à Lens, par exemple.
Ouais, mais bon, il part très tôt.
Il était à moitié formé. Il arrive à 19 ans.
Voilà. Donc, j'enlève Epogba qui part très tôt, j'enlève Varane, j'enlève évidemment Griezmann qui n'est pas formé français.
Non.
De classe internationale, sur les 15 dernières années, il n'y a que Benzema.
Giroud n'est pas de classe internationale ?
C'est un bon joueur, mais non, on ne parle pas de.
Mbappé.
Laurent, défend
tes
points en jeu, là. Mbappé, comme il est tellement jeune, j'ai même pas pensé à lui.
Mais voilà. Il est formé à Tours.
Non, mais après, vous pouvez me corriger, parce que c'est en rentrant hier, on avait une discussion avec Kevin sur la formation, les mecs du PSG qui vont dans les clubs.
Il y a une petite liste.
Non, mais il y a une liste, mais moi je parle de classe internationale, vraiment, quoi. Affirmé.
Tu débarres ta 11e saison au Real Madrid.
Voilà, c'est ça. Mais il n'y a que Benzema.
Ouais, mais classe internationale, ça dépend de classe, c'est-à-dire techniquement, tu parles.
Non, mais le joueur qui s'impose dans un grand club, qui gagne des titres, qui est d'un niveau.
Mais là tu parles vraiment du top du. On va dire du top 20.
Ouais, du panier, classe internationale, quoi.
Classe internationale, Koscielny, on peut considérer que c'est la classe internationale, par exemple. Il n'a pas gagné 1000 titres avec Arsenal. Mais c'est pas le top 20 mondial.
Sauf que sur les 20 dernières années, je sais pas si je le mets dans les 10 meilleurs défenseurs centraux qu'il y a eu. Alors que Benzema, dans les 9 sur les 20 dernières années, il est dans le top 10.
Juste, c'est fini en Ligue 2 rapidement, Xavier Grimaud.
Oui, c'est terminé avec la victoire de Valenciennes, 1-0. Le Cherki sur pénalty en première période. Guingamp a touché la barre en deuxième. Mais voilà, Guingamp 5 points sur 15 pour ce début de saison. Valenciennes est quatrième.
Et donc, et ceux qui vont répondre, Ribéry, évidemment, Ribéry n'est pas dedans puisqu'il n'est pas process formation France. Ribéry ne compte pas. Il n'est pas dans un process de formation.
Non, il a un parcours très
atypique. Il a un parcours atypique.
Ouais, oui, donc il n'est pas dans le process formation.
Il n'est pas dans le process formation.
Ah non. Il a tout fait en dehors de ça.
Oui, bien sûr.
Il a tout fait en dehors de ça.
Matuidi, ça compte pas. Sissoko, ça compte pas.
Kanté, c'est pareil. Kanté, pareil que Ribéry d'ailleurs.
Oui, il a un parcours à part.
Pareil que Ribéry.
Donc non, mais ceux que tu as cités avant, c'est des joueurs qui ont eu des carrières internationales, mais c'est pas ce que j'appelle la classe internationale, quoi. C'est pas top.
Ouais, on parle pas de. Comme dirait Polo.
Je vais vous donner un nom, et on en parlera beaucoup dans les années qui viennent. Oui. Il y a eu un petit événement en Camp Nou hier soir. Ansu Fati, le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça. À avoir disputé un match de Liga à 16 ans et quelques mois. La dernière fois, c'était dans les années 40. Mmh. 16 ans, il est en équipe junior. Oh, c'était impressionnant. Hein. Ils sont comme des fous en Espagne.
Et personne ne se méfie parce qu'on a, au Barça, on en a eu beaucoup, des très jeunes joueurs comme ça qu'on a vite oublié, de Borjan Kirchis.
Bojan n'était pas si fort que ça.
Comment s'appelait le petit d'origine marocaine, là, très très bon Mounir. Il n'y a pas très longtemps, il y a Mounir. Mounir à peine. Là. Ouais, voilà.
C'est... Babrahim.
Mounir.
Mounir.
Et en fait, là, je voulais rebondir sur. Tu voulais en venir à quoi, en fait, quand tu disais la formation française.
Non, c'est parce que comme il a parlé de Benzema, qui a été bon et que ça m'a fait penser à hier soir.
Ah, mais c'est un pur produit de la formation à la française.
Quand je suis rentré hier soir, je me disais, mais il est joueur 1 et en fait, il n'y avait que Benzema qui m'apparaissait en process formation dans un club comme Lyon, machin.
Oui, voilà. Mais à l'inverse, si
donc,
tu veux.
Donc en quoi c'est pour en déduire que.
Je disais que ça faisait peu.
Pas,
oui, je disais que ça faisait peu.
De
mecs un peu leaders, un peu charismatiques, qui ont été dans des gros clubs.
Ouais, mais sauf qu'en restreignant ton truc à un top international, tu oublies tous les gens tous ceux qui sont autour un peu de ce cercle.
Il y en a eu beaucoup, bien sûr, je pense à l'OL en particulier,
à l'OL qui est un pourvoyeur énorme.
Il y en a pas des tonnes non plus à l'OL.
Ouais, mais quand même à chaque fois
qu'en France,
il y en a pas non plus des tonnes à l'OL. À l'OL, il faut voir ce que va devenir Umtiti pour l'instant à l'arrêt, le pauvre. La Cazette, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais il ne joue pas à Arsenal.
Umtiti qui revient chez les Bleus, qui joue titulaire au Barça, tu peux pas dire que toi c'est pas une réussite de la formation française.
On n'est pas en train, ça n'a rien de comparable avec Benzema. 10 ans, régularité, les titres,
passons au sujet suivant, on a encore plein de choses à dire.
Si t'enlèves, s'il vous plaît. La formation en France, on en est d'accord.
Non, mais si t'enlèves ceux qui sont ceux qui échappent au process classique, alors que t'as aussi, même ceux qui échappent au process, même les Ribéry autres, quand ils rejouent en national ou ailleurs, ils récupèrent aussi des coachs, des entraîneurs qui sont à leur façon des formateurs. Le Kanté, quand il fait ses gammes ailleurs, ou Ribéry, quand il est à Boulogne, il retombe aussi sur des gars qui lui apprennent des trucs. C'est pas la formation. Non, mais tu veux dire, t'enlèves ça et t'enlèves le top 15, enfin, tu t'en tiens au top 15. Ça enlève aussi beaucoup de bons joueurs qui ont appris beaucoup de choses dans les centres de formation français.
Oui. Julien voulait nous parler de Tottenham, qui est la grosse déception pour l'instant de la saison en Angleterre. Julien.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe, effectivement, Daniel? On attendait beaucoup de cette équipe de Tottenham, avec notamment les recrues, Ndombele, Lo Celso et tout ça. C'est vrai que pour l'instant, on reste sur notre faim. Très, très laide défaite contre Newcastle ce week-end. C'était vraiment horrible. Ils ont eu beaucoup le ballon, hein, 80% de possession environ. Seulement 3 tirs cadrés, aucune créativité, un manque d'énergie, un manque de fond de jeu aussi, qui est très très inquiétant quand même de la part de Tottenham, qui irait donc sur une victoire compliquée contre Aston Villa lors de la première journée, un match nul miraculeux à Manchester City la deuxième journée, et donc cette défaite contre Newcastle dans la troisième journée. Harry Kane, qui pour l'instant, à part ses 2 buts contre Aston Villa au premier match, est l'ombre de lui-même. Et c'est vrai que la mauvaise fin de saison dernière, en fait, qu'on n'avait pas trop calculé parce qu'il y avait la Ligue des Champions, parce que c'était beau ce qui se passait en Europe, et ben peut-être que finalement le problème vient d'ailleurs de la fin de saison dernière. Déjà en championnat, vous avez montré énormément de limites, notamment défensivement, avec Hugo Lloris qui doit déjà faire beaucoup d'arrêts, une défense qui est pas très très solide. Et c'est vrai que pour l'instant, Tottenham, c'est vraiment très compliqué.
Bon, à suivre pour Tottenham.
Et des
bien
critiques
sûr.
Beaucoup autour du club, Pochettino, des questions qui se posent, je sais pas.
Sur Pochettino, sur la manière
lui,
aussi
il vit ça comment, il réagit comment. C'est...
Lui est plutôt reste assez magnanime en conférence de presse. La grosse question, c'est Eriksen, en fait, qui est quand même leur joueur le plus créatif. On connaît l'entente entre Eriksen et Kane, par exemple. Mais Eriksen, aujourd'hui, vu qu'il veut partir et qu'il est encore capable de partir jusqu'au 2 septembre...
Mais où il peut aller, c'est quoi l'idée, qu'est-ce qu'il se dit là-dessus, il peut aller où?
En Espagne,
lui,
Julien.
Lui, il veut aller en Espagne. Bah, il veut aller en Espagne. Il aimerait beaucoup, il rêve du Real Madrid, mais bon, je pense que, à moins que le Real Madrid n'arrive pas à réaliser le plan A, le plan B, le plan C, et lui doit être le plan D, peut-être. Fredo nous avait expliqué que sa mauvaise performance en finale de la Ligue des Champions avait un peu refroidi le Real quand même. Lui continue d'y rêver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire jouer.
Je trouve qu'il a un profil Real.
Pas trop, en tout cas, parce que s'il se blesse.
C'est un bon joueur.
Alors, mais je vais vous dire un petit truc simplement.
Quand il veut, c'est un bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur quand il veut.
Oui, alors simplement, au Real, il y a des rapports qui ont été faits. Sa manière de se comporter dans un vestiaire le dessert énormément. Il paraît qu'il a un melon pas possible, qu'il est pas sympa, qu'il est voilà ça. Il n'est pas vraiment Zidane compatible et l'esprit Zidane compatible au Real. Je sais pas si on en a entendu parler, Julien, son comportement.
Si, ben c'est un peu l'école de l'Ajax, hein. C'est un peu l'école aussi néerlandaise à l'Ajax où on te dit très très vite que t'es très très fort, que t'es au-dessus de tout le monde et que t'es le meilleur, etc. Et je pense qu'effectivement, oui, il a un petit peu ça dans le cerveau. Et d'ailleurs, lui était convaincu pendant très longtemps qu'il irait au Real, que le Real c'était le club parfait pour lui, qu'ils allaient se jeter sur lui dès qu'ils en auraient eu l'occasion. Et c'est pour ça que finalement, il est encore un petit peu. Je pense que mentalement, il n'est pas tout à fait capable de jouer 90 minutes non plus en ce moment parce qu'il a encore la tête à un départ. Sauf qu'il n'y a personne pour l'instant qui veut l'acheter. Tu peux pas vraiment le faire jouer parce que s'il se blesse, après, et tu peux plus le vendre, c'est une catastrophe parce qu'au final, ils ont quand même récupéré Lo Celso pour remplacer Eriksen. Mais Lo Celso, il n'est pas encore notamment à 100% pour jouer titulaire dès le départ. Donc, je pense que c'est un peu compliqué pour Pochettino aussi, pour ces derniers jours-là, ouais, avant la fin du marché de transfert, de gérer son effectif au mieux possible.
Ça va se mettre en place tranquillement. Là, les résultats sont pas bons. Heureusement, ils ont fait nul à City, donc ça, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, mais ça va se remettre.
Ouais, c'était pas un nul vraiment mérité. C'est un nul,
non, mais bon, il prennent un point quand même à City.
Miraculeux.
Miraculeux, certes, mais avec tous les absents. Et puis, tu sais, on parle d'Eriksen, on parle de Trippier qui avait un rôle important dans le vestiaire aussi, il est plus là. Donc, il y a
pourtant,
des manques.
Pourtant, ça c'est un Jaurier quand même qui pourrait prendre sa place.
Et dimanche, c'est Arsenal-Tottenham. Dimanche après-midi, on dirait sur RMC. Et là, s'il venait à perdre ce match-là aussi, là, ce serait vraiment, vraiment chaud.
Dans quelques instants, vas-y, Fred.
Rapide.
Attends, la question après la pub, il faut aussi qu'on parle du Bayern et de Dortmund, c'est important.
Mais ça va être rapide.
Et Francfort à 3 jours du match de l'exploit du Racing Club de Strasbourg, c'est dans quelques instants dans l'after. A tout de suite.
RMC, 21h30.
L'after foot, Gilbert Bribois.
Il y en a avec Julien Cazère, dans quelques instants Julien Cazère, parce qu'il est déjà là, en train de faire le fou, donc c'est pour ça que je le cite. Il arrive dans un petit quart d'heure, Daniel Riolo, Jérôme Bretagne et Florent Gautreau, bien sûr, les drôles de l'âme. Polo, il faut qu'on parle du Bayern et de Dortmund, alors même si, pour l'instant, évidemment...
J'avais une question.
Ah oui, ta question, j'ai oublié, Fred.
C'est super rapide, parce qu'on se demande ici, le marché ferme lundi. Julien, y a-t-il une petite possibilité que Manchester United accepte une offre pour Pogba? Pour le Real.
Impossible. Ils ont été tellement mauvais samedi, vraiment tellement mauvais contre Crystal Palace lors de leur défaite, que c'est impossible qu'ils les laissent partir. Ils ont perdu Martial sur blessure, ils ont perdu Shaw sur blessure, ils ont encore raté un penalty, ils ont été vraiment mauvais, même Maguire. Et ce serait suicidaire de leur part de laisser partir.
Maguire, merde, pourtant 90 millions, ça.
Non, puis t'es en train de me dire que Solskjaer serait peut-être une banane.
Non, tu rigoles, c'est pas un entraîneur, c'est grâce à lui le 3-1.
C'est le moral de Fred, là.
C'est le travail tactique du
Bayern. Non, mais parce que comme Neymar va pas venir.
Désolé, Fred.
Non, mais moi, je te fais confiance.
Le gros travail tactique, quand même, ce soir-là, bien sûr.
Écoute, ça me fait plaisir d'entendre qu'ils sont en grande difficulté, même en début de saison.
Bayern Dortmund, alors pour l'instant le trou n'est pas fait en Bundesliga évidemment, hein, après deux journées, parce que même Fribourg a 6 points, petit Polo par exemple.
Oui,
mais t'aimes bien Fribourg, le stade de la Forêt Noire.
C'est un club francophone, vous parliez de formation, que les responsables en France aillent à Fribourg.
Ah d'accord.
C'est pas loin en plus, pratique, c'est juste à côté de la frontière. Le Bayern et Dortmund, raconte.
Bon, écoute, il est difficile de tirer des conclusions définitives parce que certains joueurs sont blessés, les schémas sont pas encore complètement figés. Je voudrais juste dire que le Bayern, donc l'a emporté 3-0 à Schalke, ce qui est évidemment toujours un petit peu une performance, l'emporter à Schalke. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'équipe de Schalke cette année est assez, fait quand même vraiment peur. Moi, je voudrais appuyer sur le fait qu'il y avait 4 Français quand même sur le terrain au départ de la rencontre, qu'on a souvent joué dans une défense à 3, donc ça pourrait être intéressant pour Pavard. nonobstant le fait évidemment les blessés, puisque Thiago Alcantara l'était et Goretzka aussi. Je voudrais surtout souligner le fait que Coutinho est quand même rentré à l'heure de jeu et il a été positionné, c'est un peu ce qui circule en Allemagne, plutôt en position de numéro 10. Ce qui est intéressant évidemment pour un Français, c'est Coman, mais qui est évidemment plus compliqué pour un autre, qui est Tolisso. Il a remplacé Müller à l'heure de jeu, donc c'était intéressant à ce niveau-là. On voit tout de suite la classe qu'il a. Maintenant, dans le jeu et le fond de jeu du Bayern, je pense qu'ils doivent encore beaucoup s'améliorer. On ne sait pas, donc ils ont plutôt joué dans une défense à 3, je ne sais pas, moi je pars plutôt du principe du 4-3-3 de Niko Kovac. C'est intéressant à ce niveau-là. Ils doivent vraiment monter en gamme, parce que lorsque Schalke a poussé, honnêtement, c'était compliqué pour le Bayern, sauf qu'il y a un attaquant qui est de classe internationale, pour vous suivre un petit peu, qui s'appelle Robert Lewandowski, qui est en feu depuis le début de saison. Il a mis un triplé, il en est à 5 buts en 2 rencontres.
Ça va, il a arrêté donc, de chouiner là, genre j'ai personne pour me donner les ballons et tout, il est content maintenant.
Enfin,
là,
bon,
là,
Lewandowski, on le connaît un petit peu.
Attends,
quand même.
Nous, sinon, on lui remet Ludovico Bragnac, ça marchait bien.
Polo, d'ailleurs, il a une stat incroyable, je voyais une moyenne de buts par match qui est énorme, toute proche de celle de Gerd Müller, c'est ça
même pas Gerd Müller, faut pas exagérer non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'attends, il doit en être à 207 buts, c'est-à-dire qu'il est plus qu'à 13 buts de Jupp Heynckes, qui était quand même le troisième plus grand buteur de la Bundesliga, donc c'est-à-dire qu'il va les battre. C'est assez impressionnant, Lewandowski. De toute façon, pour moi, il a toujours été un des plus grands attaquants en Europe, et c'est pour ça d'ailleurs souvent que lui, lorsqu'il y avait des rumeurs au Real, c'est pour ça qu'il aimait bien se positionner lui-même, tu vois, un petit peu quelquefois. Mais c'est sûr que là, depuis le début de saison, c'est pour ça que j'ai pas envie, si vous voulez, de me positionner sur la qualité de ce Bayern-là qui est encore en construction, et Coutinho d'ailleurs qui est pas au top physiquement. Ce qui est sûr, c'est que la baraque aujourd'hui, elle est tenue par Lewandowski. On verra dans quelques semaines ce que ce sera.
Un mot sur Francfort, parce qu'il y a le match contre Strasbourg dans 3 jours. Bas Dost a signé. Ouais. Et il y a quelques incertains. Alors Bas Dost,
combien quand il a été recruté?
7 millions.
Ah ouais, quand même. Ouais, mais en même temps, il est moitié moins fort que Benedetto, hein, donc c'est normal qu'il coûte la moitié du prix.
Non, mais alors bon, pour Francfort, c'est un peu la crise quand même, faut le dire. On est passé d'un match qui devait être supposé être facile contre Strasbourg au match de l'année, quand même.
Juste Dost jouera pas contre Strasbourg. Hein.
Non, Dost ne jouera pas contre Strasbourg. D'ailleurs, on sait pas trop quelle équipe on aura, parce que Rebic, alors là, c'est un feuilleton, mais ça, c'est Ante Rebic aussi. Rappelez-vous qu'il a été sorti à la mi-temps du match contre Strasbourg. Officiellement, c'est lui qui a demandé à sortir, que Hutter voulait aussi le sortir tellement il était pitoyable, et on apprend le lendemain qu'il a des problèmes au mollet. Idem pour Kasinovic. Rode, même s'il a fait du vélo aujourd'hui, est blessé. Abraham est aussi sorti de sa rencontre, lors de la rencontre contre Leipzig. Alors la prestation de Francfort était très très intéressante par rapport à celle qu'ils ont faite contre...
Abraham, s'il pouvait jouer jeudi, ça serait mieux.
Pardon ?
C'est mieux pour Strasbourg, tu veux dire ?
Ouais. Voilà, Strasbourg, avec tout ce que tu dis, ça passe tranquille.
Ce qui est très intéressant, on a beaucoup discuté avec Gilbert, en fait, il est revenu avec deux attaquants. Le problème, c'est qu'Ante Rebic, c'est la dernière semaine du mercato, et on n'est pas persuadé qu'Ante Rebic soit encore là, et notamment jeudi. Officiellement, il y a des demandes, il n'y a pas d'offres pour Ante Rebic, pour le Croate. Donc c'est assez intéressant, mais il faut aussi une petite anecdote quand même, c'est qu'Ante Rebic, en fait, il se disait à la fin de la saison derrière, déjà qu'il était en partance, et que surtout il avait plus ou moins accusé l'ensemble de ses coéquipiers d'être les responsables de la non-qualification en Ligue des Champions. Donc si tu veux, dans le vestiaire, c'est pas forcément extraordinaire.
Ouais.
Hein, mais et nous, on attendait tous, honnêtement, quand on suivait le truc, que Ante Rebic se barre. Le problème, c'est que là, on est à une semaine, on l'a recadré très clairement via Adi Hütter, mais on ne sait pas encore là s'il sera, je sais même pas s'il sera là, jeudi, sur le terrain. Ce qui pose le problème de l'effectif. Ce qui est sûr, c'est que contre Leipzig, ils ont fait une prestation assez intéressante, notamment en mettant deux attaquants, le jeune supposé successeur de Jovic, Jovelcic, et puis ils ont mis Paciencia, dont je vous avais un petit peu parlé la semaine dernière, qui est plus qu'un remplaçant, qui fait sa place, mais encore faut-il bien le gérer, ce qui n'est pas le cas à mon point de vue de la perte d'Adi Hütter. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une ambiance d'enfer. C'est un match qui devient très très important. Certains cadres du vestiaire de l'Eintracht ont commencé à pousser entre guillemets des coups de gueule, comme quoi ça va, quoi. Et on attend une prestation de Francfort digne de son nom.
Alors, ça me permet justement de faire une petite passe à Julien Laurence, parce que Sébastien Haller, qui lui vient de Francfort, a brillé ce week-end. Ah, on a perdu Julien peut-être. Décidément.
Ah, toutes les semaines, il y a un souci de communication.
Je peux dire un truc, moi, en attendant, pour combler.
Il est bon, celui-là.
Ben ouais, mais non, moi, celui-là, je comble, tu vois.
C'est le Tebas de l'Irlande. T'as vu, dès qu'il peut placer un truc, vas-y, Fredo.
Non, mais vous savez qui est le leader de la... Vous vous souvenez, l'an dernier, les 4 mois à Anus Horribilis de Julen Lopetegui, quand même, qui en 4 mois avait été viré du mondial, viré de la sélection espagnole et viré du Real. Eh ben, le monsieur, il a repris Séville, on le sait pas assez, il a pris l'équipe de Séville, pas de bêtises, hein, le Séville FC. Deux matchs à l'extérieur, deux victoires, et leader de la première division espagnole de la Liga.
Ça a pas duré, ça.
Ouais, mais
si Julien n'est pas là, on peut quand même dire qu'il y a un énorme escroc en tête du classement des buteurs de la première ligue, quoi.
Ah.
C'est qui?
C'est Pukki.
Pukki le Finlandais?
Pukki le Finlandais, ouais. Attends, le mec, je l'ai vu à Schalke, il avançait pas, c'était horrible ce qu'il faisait. Par contre, dès qu'il part d'Allemagne, il est spécialiste pour flinguer les équipes allemandes, notamment pour les qualifications en Europe. Il était à Bondy, c'est lui qui a sorti le Hertha Berlin, tu vois, il fait un match, il met 3 buts, puis après il fait plus rien.
C'est ce qui s'appelle.
Moi j'adore son nom, Pukki.
Il est où?
Ah oui, Pukki,
lui, Pukki.
À Schalke.
Il est à Norwich, je crois.
Il était à Schalke.
Il était à Schalke.
C'est la corrélation entre certains joueurs et quand on dit ce championnat va lui aller. Ça arrive, c'est vrai que ça peut
Pukki.
Être le cas.
C'est pas très sérieux, Pukki.
Non, mais je parle sous le contrôle de Julien, évidemment.
Mmh. Ouais, c'est ça, tu l'imagines pas dans un clip de rap, quoi. Tu vois.
Ah non, Pukki, non, c'est dans un dessin animé avec Choupi qui arrive, quoi.
Bisounours, quoi, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Sinon, je peux combler aussi avec d'autres trucs.
Non, non, mais on n'a pas besoin de combler puisqu'on arrive au bout.
Ah bon, on l'enverra pas là.
On arrive au bout, les gars.
Il a fini ça.
Et Dortmund, quand même, non?
Vas-y,
Paul. Dortmund a eu beaucoup de soucis. Alors, ils ont dominé évidemment Cologne, qui est une équipe très compacte et qui arrive de seconde division. Ce qui est très intéressant, c'est que Lucien Favre a été forcé de changer son schéma, puisque pour la deuxième fois depuis le début du championnat, Dortmund est mené. Donc, pour faire un favori de la Bundesliga, c'est quand même parfois un peu compliqué. Et donc, il a été forcé de changer son schéma de jeu. 4-2-3-1 en faisant rentrer Julian Brand à la place d'un autre Julian, c'est Weigl. Et là, ça a marché. Ils ont marqué à la 86e minute, mais il y a encore là aussi des progrès à faire du côté de Dortmund pour en faire un favori absolu de la Bundesliga. Juste, je finis avant de passer le relais. J4, Dortmund-Leverkusen, Leipzig-Bayern, je pense qu'on y verra un peu plus clair.
Ah,
30 merci, secondes messieurs. Pour 30 secondes, mais rapide, parce que il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Rodrigo Moreno de Valence devrait signer dans les prochaines heures avec l'Atlético. On y reviendra dans les prochaines semaines. Mais l'Atlético, ils ont fait un recrutement de folie.
À Moreno à l'Atlético. Donc ça sent pas bon pour un Marseillais.
Ça me rappelle depuis le temps qu'on n'a pas de nouvelles de Dario Moreno, son frère.
Gilbert, confirmation des contacts entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich l'année prochaine pour un certain Kai Havertz.
Ah bah voilà, c'est parti. Ils sont là, le Bayern.
Il est déjà dans le mercato de l'année prochaine.
Oui, c'est Polo. Ça, c'est le Bayern.
C'est vrai, Polo, c'est l'anticipation, ça.
Il y avait Dario Moreno, il y avait Eric aussi, Moreno.
Eric Moreno.
Non, Eric Morena.
Enfin, Morena, par
exemple. Oh, mon bateau, tu es le plus beau des bateaux.
Là, ça me fait penser que la fête du citron de menton, Daniel, c'est du 15 février au 4 mars. Si tu veux y aller, en 2020, on va s'en occuper.
Je vous rappelle.
Et la fête du melon, c'est pour quand?
Salut Polo, salut Fred. Dans quelques instants, Julien Cazard, messieurs, dames, dans l'after, avec encore de la Ligue 1. On va parler de Monaco, on va parler Mercato, on va parler de Nice également, qui a été officiellement racheté aujourd'hui dans l'after dans quelques instants. Jérôme.
Allez, salut.
Ouais. Ah, t'as une heure de repos.
On va parler de la Ligue 1.
T'as qu'à rester
avec le vrai spécialiste qui s'en va, c'est pas grave.
Bah, t'as qu'à rester, pourquoi tu restes pas?
Parce que je.
Bah, tu te mets à côté de moi là.
Lui, il a dit jusqu'à 23h.
L'after, c'est une grande famille.
Non, non, non.
Si tu veux rester, tu veux rester. Si tous ceux qui sont partis veulent revenir,
tu sais pourquoi il veut rentrer pour se reposer parce qu'il a un rendez-vous très important demain 11h.
Généreux. C'est quoi 11h demain?
Demain, tu vas tenter d'égaliser.
Égaliser quoi?
En nombre de victoires défaites par rapport à moi sur ton bilan. Demain 11h.
Tu veux prendre ta revanche demain?
On a rendez-vous, bon, sache-le. C'est pas une revanche.
Vous nous tiendrez au courant.
C'est pas une revanche, parce que t'es encore en retard. Mais
l'after revient tout de suite, messieurs, c'est parti.
Demain, t'égalises.
Enfin, tu peux. Jusqu'à minuit.
L'after foot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed, and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.